Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La moitié sud du pays a donc vécu un dimanche brûlant, jusqu'à 43,4 degrés à Argeliers dans l'Aude.
On va vivre dans le frigo jusqu'à la fin de l'été, puis c'est tout.
Cela relève de l'éco-terrorisme.
How dare you?
Je ne crois pas au modèle Amish.
Mais vous êtes dingue!
Il va aller sur la terre.
Là, il est temps aussi peut-être un peu de désobéir.
Sainte-Soline, à 69, plusieurs luttes pour l'environnement ont été très médiatisées ces dernières années.
Pourtant, à l'image de la contestée loi du plomb, la législation environnementale est peu à peu détricotée.
L'écologie n'a plus la cote chez les politiques et les médias.
Certains n'hésitent plus à qualifier les militants écologistes d'éco-terroristes.
Un violent retour de bâton qu'on retrouve à l'échelle planétaire, 10 ans après les accords de Paris.
Depuis le début de l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,5 degré.
Les climato-sceptiques, notamment présents à l'extrême droite, s'emparent du pouvoir politique, comme en Italie, aux États-Unis et en Argentine.
Assistons-nous réellement à un retour en arrière?
L'écologie politique est-elle morte et enterrée?
La lutte environnementale est-elle cantonnée à l'échelle locale?
Un autre monde est-il possible entre convergence et dépassement du capitalisme?
Vert de rage, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Cette phrase du critique littéraire américain Frederick Jameson en dit long sur nos difficultés à imaginer demain. Les horizons que l'on aperçoit derrière les nuages du chaos climatique sont souvent décrits comme sombres et orageux. Quand nos imaginaires ne sont pas apocalyptiques, ils nous emmènent vers une ville intelligente ultra connectée, la science nous sauvant des projections à plus 4 degrés.
Mais certains veulent imaginer un autre monde, différent des deux univers qu'on nous propose, apocalyptique pessimiste ou capitaliste technosolutionniste. C'est à ces voix, qui amorcent d'autres chemins, que nous avons voulu tendre le micro. Réfléchir aujourd'hui, l'après-demain. 5e et dernier épisode de la série documentaire « Vert de rage » sur Canal B.
Avant d'aller creuser plus en profondeur, on a d'abord voulu parler d'écologie avec des personnes concernées. Des jeunes qui le verront, elles, eux, le demain.
Allez, on enlève son manteau, il fait chaud.
Yuen, Martin, Zoélie et Yuna sont en terminale au lycée Saint-Exupéry à Rennes, en option sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Autant dire que l'environnement, c'est leur rayon. On voulait savoir comment ils et elles percevaient aujourd'hui les discours sur l'écologie.
Si on en parle beaucoup plus, c'est parce que c'est beaucoup plus urgent. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même plus de mouvements qu'avant, mais moins par rapport à la progression de la problématique.
Ça, je pense, ça va passer par l'enseignement, du coup l'école. Du coup, ce serait vraiment par l'école et depuis le plus jeune âge, je pense.
Et oui, enfin, dire aux gens, montrer la beauté de la nature et des animaux, pas que montrer le côté négatif et montrer que si on progresse et qu'on diminue notre production, etc., enfin, comment est-ce que ça peut redevenir un peu comme avant, etc.
Et je trouve que l'écologie, c'est quand même assez moqué. Alors, enfin, qu'est-ce qui nous embête avec leurs écologies, mais c'est important et ça touche tout le monde.
Il faudrait peut-être transformer les mots en action et tenir les promesses que certains ont tenues et qu'ils n'ont jamais fait, quoi.
Parce que oui, récemment, on parlait de la couche d'ozone qui s'est rebouchée, par exemple. Je pense que c'est un bel exemple pour montrer qu'il y a encore une marge de manœuvre et qu'il y a des choses qui sont possibles, à condition de mettre des choses en place. Le fait d'en parler, ça permet qu'il y ait un peu une petite lueur d'espoir quand même dans tout ça, quoi.
En partant, on leur a demandé quelle émotion leur inspirait demain et de se positionner entre peur et espoir. La plupart ont répondu la peur. Alors, on s'est demandé ce qui bloquait encore dans nos têtes. Pourquoi on restait tous et toutes à ce point paralysés? Et on s'est dit que la clé, ou le coupable peut-être, ça devait être notre imaginaire, les récits qui nous construisent, les perspectives de lendemain qui s'offrent à nous.
On a pris le train et on est allé à Paris demander à Ariel Kirou, chercheur spécialisé dans les nouvelles technologies et la science-fiction, ce que c'était que l'imaginaire et en quoi il pouvait nous conduire à penser un monde en phase avec l'écologie.
Les imaginaires, dans le mot imaginaire, il y a le mot image.
Ariel Kirou, chercheur.
Donc c'est des images que l'on se construit individuellement et collectivement. Croire que les imaginaires sont quelque chose de purement individuel est une erreur. Les imaginaires sont autant individuels que collectifs. Donc ce sont des images qu'on se fait. Les images, c'est quoi? C'est des images réelles et des images métaphoriques. C'est des représentations, c'est des rêves, c'est des mythes, c'est des symboles, c'est des récits. Donc c'est tout ce que l'on se raconte au travers d'images ou de narrations. Et c'est quelque chose aussi qui se réinvente en permanence. Hein, les imaginaires, c'est un carburant. C'est-à-dire, le moteur serait le réel et comment on agit dans le réel. Et l'un des carburants qui nous permet, qui nous motive pour le meilleur ou pour le pire, ce sont ces imaginaires. C'est des outils de mobilisation, de motivation.
En y réfléchissant, on a vite constaté que notre imaginaire avait été imbibé de valeurs de victoire, de bons contre les méchants, de compétition, de progrès technologique et d'argent.
Le monde est au bord d'une guerre totale. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre.
Au final, c'est peut-être ça qui nous empêche d'envisager demain autrement.
Dans les imaginaires qui ont nourri le capitalisme, il peut y avoir à la fois quelque chose, des éléments de l'ordre de la religion, comme des éléments effectivement de l'ordre d'un environnement qui va valoriser un certain nombre de qualités au travers d'images du présent, du passé ou de projections vers le futur. La logique de compétition, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le survivalisme pur, dans un film survivaliste, purement et simplement, on est encore dans un imaginaire capitaliste. Lorsqu'on est au contraire dans un film qui valorise l'entraide, en fait, le panier plutôt que la lance, pour parler comme Ursula K. Le Guin, on est dans un imaginaire qui n'est plus un imaginaire purement capitaliste, qui est un imaginaire de la coopération, un imaginaire de l'entraide, et qui donc a d'autres types de registres. Et donc l'imaginaire capitaliste, ce sont des imaginaires, une multiplicité, qui ont à la fois une histoire, qui ont à la fois des sources, et qui se réinventent sans cesse sur la base d'un corpus de valeurs, qui sont le corpus de valeurs que véhicule le ou un certain type de capitalisme en fonction des différents types de situations. Hein, celui de l'individu plutôt que du collectif, hein, celui de la compétition plutôt que de l'entraide. Bien, ça dessine en quelque sorte un imaginaire. Il y a une pluralité d'imaginaires, et si on essaye de se dire c'est quoi l'imaginaire écologique, est-ce que c'est des imaginaires de fin du monde, est-ce que c'est des imaginaires de liés à la nature ou à la forêt, les imaginaires de la forêt sont donc déjà c'est une multiplicité d'imaginaires. Donc en fait c'est l'ensemble de ces vecteurs de transformation qui jouent avec les imaginaires pour potentiellement faire évoluer ou au contraire nous permettre de faire en sorte que nous restions immobiles.
Pour comprendre encore un peu mieux, on a profité de notre passage à Paris pour aller rencontrer une personne qui a décortiqué toute sa vie les rouages du capitalisme et en particulier ses principaux gardiens. Dans son dernier livre, Les riches contre la planète, Monique Pinson-Charlot met les capitalistes face à leurs responsabilités dans la catastrophe climatique et montre comment ils modèlent nos façons de penser.
Donc on n'est pas du tout face à un anthropocène.
Monique Pinson-Charlot, sociologue.
La vie de la majorité des populations est parfaitement compatible avec l'entretien, le respect des animaux et de la nature, le respect de la vie, tout simplement, et que ce sont vraiment les plus riches à travers à la fois leur mode de consommation, jet, yacht, etc., mais surtout avec les investissements financiers. Ils s'accaparent. À partir des titres de propriété, ils s'accaparent véritablement toutes les richesses liées à l'exploitation et à la domination de classe. Et il n'y a pas du tout de ruissellement. Et il y en aura de moins en moins. Bourdieu nous disait toujours de dire « tout se passe comme si ». Et comme ils sont toujours entre eux, qu'ils ne sont pas très nombreux, ben ma foi, ça fonctionne comme un seul homme. Mais donc, et c'est intéressant. Parce que quand on y réfléchit, on se rend compte qu'à travers cette manipulation, ils font quoi ? Ils construisent le capitalisme vert. Et voilà.
Un contrôle bien organisé qui formate nos réflexions, nos modes de vie, notre imaginaire et nous contraint à l'inaction.
Et donc, ben oui, mais on n'arrive plus, c'est-à-dire qu'on est tétanisé par les oxymores, neutralité carbone, développement durable, tous ces termes contradictoires qui ont été tellement bien analysés par Orwell. Ça t'empêche vraiment de penser. Ça te coupe des émotions et de la réflexion. Tu es sidéré par la charge, mais tu t'en rends pas compte et tu es incapable de. Et tu es plus capable de penser. Enfin, t'es pris dans un espèce de carcan. De choses inhumaines, de choses qui te soumettent, qui organisent une espèce de forme de servitude volontaire, comme disait la Boétie, et qui t'empêche d'oser. Et souvent, je cite cette maxime de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Après avoir fait partir nos cerveaux bien loin et déjà bien tourné le sujet dans plusieurs sens, on s'est dit qu'on prendrait bien une pause. On s'est demandé quelle musique pourrait coller à nos questionnements. On a vu que le groupe Catastrophe passait à Rennes, on aimait leurs mélodies qui soulèvent les cœurs, souvent empreintes d'un mélange d'espoir et de nostalgie. Alors on a choisi une partie de la chanson « Sauvons-nous » qu'on va écouter, mais d'abord, on leur a demandé s'ils et elles pensaient que la musique pouvait avoir un rôle à jouer pour faire valoir l'écologie autrement. On écoute maintenant Blandine et Carole du groupe Catastrophe.
Je pense que toute la question de l'écologie aujourd'hui, c'est de la rendre désirable, que ce soit quelque chose qu'on a envie de faire et pas quelque chose qu'on nous contraint à faire, pas quelque chose qui serait marketing. Enfin, en fait, je sens que même le mot écologie a été capté par plein d'acteurs et qu'il y a une sorte d'enjeu à le réveiller, en fait.
Oui, c'est-à-dire que l'écologie, c'est un rapport au vivant, mais c'est aussi un rapport au temps. Et c'est aussi essayer de retrouver cette forme de temps long, de refuser l'instantanéité qui... produit, la surproduction, la surconsommation, etc. Enfin, et ça commence aussi sur scène et en faisant de la musique, quoi, je pense.
Je pense qu'il y a une espèce d'effet, quand même une sorte d'aura magique, quoi, de la musique qui nous permet soudain de nous sentir ensemble et que, enfin, moi personnellement, ça me manque dans le monde aujourd'hui des émotions, des vraies émotions profondes, puissantes et collectives. Et donc, peut-être que la musique a une petite part à jouer là-dedans.
Il a fait beau hier, mais nous n'y étions pas, nous pensions à demain, qui nous manquait déjà, des silhouettes s'effacent, d'autres les remplacent, les informations sont des bibelots d'oubli, nous les collectionnons au fond de notre lit comme des apothicaires qui jouent au domino. Il a fait beau hier, mais nous n'y étions pas.
Sauvons-nous de ce décor, fuyons dans la nuit. Ils nous chercheront, mais nous serons partis. Nous tremblerons fiers comme des feux sous la pluie. Hier est mort.
Ça moncelle, tout le monde seul en scène, la terre en séquentiel. À chacun son conseil, je t'ai tendu la main. Tu regardais ailleurs, tu m'as souri de loin, mais ce n'était plus l'heure. Et désynchronisé, chacun rejoint les siens, chacun s'endort sous nos paupières qui clignotent. Il a fait beau hier, mais nous n'y étions pas.
Corps, fuyons loin d'ici. Ils nous chercheront, mais nous serons partis. Nous tremblerons fiers comme des feux sous la pluie. Hier est mort.
Et nous sommes en vie. Thank you.
C'était Catastrophe avec son titre Sauvons-nous. Vous êtes bien sur Canal B. Vous écoutez la série documentaire Vers de rage, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes.
En se penchant sur le sujet, l'art nous est apparu comme un point indispensable à aborder. L'art comme source d'inspiration, comme carburant de notre imagination. Du cinéma à la littérature en passant par la musique, les œuvres qui nous accompagnent au quotidien ont le pouvoir de façonner nos manières de voir le monde, nos aspirations et nos désirs, pour le meilleur et pour le pire. Toutes les disciplines et tous les genres pollinisent nos esprits. Mais il y a un genre littéraire qui se démarque des autres par l'invention de mondes alternatifs. Ce genre, c'est la science-fiction, longtemps portée par des récits dystopiques. Et si c'était ça, le problème, la peur? Voilà ce que nous disait Zoélie en terminale au lycée Saint-Exupéry à Rennes.
À mon avis, il y a beaucoup trop de gens dans l'ignorance ou même dans la peur de ce qui peut se passer plus tard. Et les gens, ça donne juste envie de faire l'autruche et de pas s'y impliquer et tout. Et puis même, en fait, c'est dur tout seul de se dire « je peux changer les choses ». Pour moi, il faudrait un mouvement global qui donne positivement envie de changer.
Pour l'auteur de science-fiction Alain Damasio, il n'est plus pertinent d'écrire des récits dystopiques.
Aujourd'hui, avec la surinformation dont on bénéficie, on n'est pas en déficit d'information, on est en surpoids ou en abondance d'informations. C'est bien que ce rôle de l'ASF, qui était censé refaire sortir des choses qu'on n'avait pas vues ou que personne n'avait anticipées, n'a plus lieu d'être. Ce qui fait que, pour moi, ces imageries apocalyptiques ou post-apo sont devenues très clichés, très attendues. Tout le monde peut imaginer ce que ça fait un réchauffement climatique à plus de 4 degrés. Tout le monde peut imaginer ce que c'est une catastrophe nucléaire. Tout le monde peut imaginer l'immigration climatique et tout. Ce qui fait que travailler là-dessus, ça me paraît pas passionnant et ça me paraît pas pouvoir mobiliser énormément les gens.
Fini les dystopies. L'auteur, lui, mobilise le concept de prototopie.
Moi, ce que j'essaye de poser ou de porter, et je suis pas du tout le seul à faire ça, mais c'est ce qu'on appelle les prototopies. C'est-à-dire de dire, il y a des prototypes de société qu'il va falloir essayer d'imaginer, mettre en scène, mettre en récit, et sur lesquels, c'est ni une utopie, ni une dystopie, c'est une formalisation spéculative de ce que pourrait être un avenir écologique enviable, on va dire, en tout cas crédible, mais portant sur des pistes positives.
Mais alors, comment on fait un roman de science-fiction crédible et positif?
Mes romans, que ce soit La Jeune Girl, La Horde ou Les Furtifs et même Les Nouvelles, c'est-à-dire que généralement, je fais l'histoire de groupe. Et ce que je mets en scène, c'est des attachements. Voilà. C'est des attachements, c'est des liens, c'est des relations, c'est des rapports. Et avec tout ce que ces rapports, ces liens et ces attachements peuvent créer en termes de liberté.
L'ICAM, autrice de science-fiction, perçoit l'écriture comme un outil d'expérimentation qui soigne sa peur.
Écrire, ça me permet de réfléchir, de creuser des questions très profondément. Au lieu d'écrire des essais abstraits, ça me permet de prendre des personnages, des gens, les mettre en situation, voir comment ça bouge et comment ça réagit. Ça me permet de faire des expériences très concrètes, en fait, d'autres modes de vie. Et moi, ça me fait du bien, parce que je me dis que c'est possible. On a vraiment besoin d'être créatif devant les difficultés, en fait. On part d'une situation où on sent que ça va être compliqué. On y réfléchit, on crée des choses, on fait des propositions, et ça va mieux, déjà.
Vous êtes toujours sur Canal B. Vous écoutez la série documentaire Vers de rage, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Quand on a demandé à Monique Pinson-Charlot à quoi ressemblait son monde idéal, voici ce qu'elle nous a répondu.
Ce serait exactement comme dans ma Lozère natale. Franchement, c'est de se rendre des services, les paysans qui nous donnaient des œufs, du lait, enfin. Et puis, mon père qui rendait service avec son métier à telle ou telle famille. Enfin, c'était bien ça, mais pas aussi bien que ce que je peux me le représenter aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de développement que ça sera pas compliqué d'être. Mais de s'entraider. Moi, tu vois, je suis là toute seule dans ma maison. Heureusement que j'ai mes voisins qui sont sympas, qu'on s'entend bien. Quand j'ai un problème, ils viennent m'aider. Quand eux, ils ont un problème, je leur offre mes livres. Enfin, tu vois, on est dans des échanges comme ça. C'est comme ça que je me représente la bonne vie. Hein. Votre imaginaire, ce qu'on imagine après le capitalisme, dans cette voie post-capitaliste, parce que ça ne va pas être d'un seul coup que ça va pouvoir se mettre en place, bien ça existe déjà de partout.
Pour aller voir un peu comment se matérialisent ces mondes, on s'est dit qu'on pourrait aller voir ce que certains ont pu faire. Et notamment à la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Ces terres, d'abord réservées à la construction d'un grand aéroport près de Nantes, ont été occupées par des écologistes de tous bords. Après l'abandon du projet, en 2018, certains ont choisi de rester vivre là-bas, et de continuer à vivre autrement. Le jour où on a été voir Gwen et Alec, sur place, à la Noé Verte, il avait plu.
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas trop dans une mode, dans un mode de surconsommation. Ça, c'est enfin, on limite, mais pas comme une idéologie qu'on se serait mis tous où c'est tacite, quoi. On n'est pas... Enfin, je connais pas grand monde qui achète des fringues sur Shine et, toutes les semaines en mode fast fashion, quoi. Sur Zone. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, en vrai. Mais par exemple, moi, je commande sur Amazon toutes les semaines. Enfin, je veux dire...
Ça, faut pas le dire non plus.
Mais qu'est-ce que vous avez eu l'impression que ce projet-là de la Noé Verte a jeté du capitalisme qui était merdique, et qu'est-ce qu'il garde de bon?
Par exemple, notre modèle d'habitat, moi, je le trouve trop bien. Avoir une baraque collective et plein de petits habitats perso, c'est trop bien. C'est pas énergétiquement le truc le mieux, hein. Vaudrait mieux vivre dans des immeubles, ce serait quand même plus... Enfin, dans les grands immeubles pour chauffer bien serré.
Chauffage,
mais bon, pour vivre en collectif, vaut mieux pas vivre en immeuble. Alors, enfin, vaut mieux pas vivre trop près les uns des autres.
Serré.
Et par exemple, ça, c'est un truc qui est distribué partout sur Zone. Enfin, quasiment tout le temps, ça fonctionne comme ça. T'as une baraque collective et tout le monde habite dans les petits habitats perso. Ça, je trouve ça, en termes d'efficacité énergétique, pas tout, enfin, des fois critiquable, mais en réalité, quand tu regardes à combien on chauffe nos habitats perso, tu te dis ça va. Moi, je viens d'une grande famille où il y a, enfin, ça fait un peu cliché, mais genre, grosse famille du Nord, prolo, entraide, tout ça. Et en fait, il y a. Enfin, moi, par exemple, mon père avait un camion, je crois que j'ai fait des déménagements au moins un week-end sur trois quand j'étais petit, enfin, quand j'étais jeune, des trucs comme ça. Ce sentiment de se donner des coups de main sans avoir une rétribution égale argent, machin et tout. Ça, c'était un truc que j'ai retrouvé ici qui était vraiment très plaisant. Et puis, il y avait quand même, moi je suis arrivé en 2016, il y avait quand même ces trucs un peu hallucinants de. Il y a de tout ici. Enfin, il y a des ingénieurs, des bobos, des anciens, des personnes qui étaient à la rue avant, des personnes migrantes.
Ces gens venant de partout, qui ont fait et qui font toujours la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ils sont porteurs d'une vision du monde qui leur est propre. C'est cet imaginaire-là que Gwen nous a expliqué.
Probablement, l'imaginaire qui est porté ici correspond à certains types d'imaginaire écologique qui est plutôt le mode autonomie... autonomie anticapitaliste, quoi, disons. Mais par exemple, très peu en ce qui concerne la lutte des classes. Enfin, je veux dire, c'est très orienté vers un endroit, mais il en manque plein. Enfin, je veux dire, et en ça, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de globalement exemplaire, ce qui se passe ici. J'ai l'impression que si on produit quelque chose, c'est pas vers l'extérieur, c'est un imaginaire dont d'autres pourraient s'inspirer potentiellement. Et ça, même ça, je suis assez dubitatif sur le fait que ce soit vraiment réaliste, pour la simple et bonne raison que un abandon d'aéroport ne sera pas le début d'une lutte écologique globale de 70 millions de personnes. Enfin, je veux dire, ce qu'on vit ici, c'est avoir des terres gratuites, enfin, avoir des terres à disposition. C'est quand même un des enjeux de révolution depuis à peu près un siècle et demi. Tout ce qui concerne les réformes agraires, la répartition des terres et tout ça. Et j'ai l'impression que nous, on a eu cette chance d'avoir le terrain qui se libère et donc de pouvoir y projeter des imaginaires ou y projeter des projets et tout. Ce qui est quand même peu le cas des gens en règle générale.
Donc on est en train de monter le système, savoir comment on va s'organiser vraiment, mais c'est les gens viennent avec leur production et ils repartent avec leurs bocaux avec une mutualisation de matériel. Et on peut aller voir vite fait, hein, si vous voulez. Ouais. C'est parti du tour. Hop là. Stop, du coup là il y a eu une transfo ce matin là, et ils ont fait de la confiture de rhubarbe. Et voilà, c'est pour ça que c'est tout propre. Et voilà, on n'a pas encore fini d'aménager tout bien comme on veut, mais vous voyez, c'est déjà quand même pas mal équipé. Il y a une autre pièce là qu'on voit pas trop. Et à côté, il y a le hangar. Un hangar qui un jour sera un peu une petite salle des fêtes, quoi. Enfin, on fait déjà des petites fêtes dedans, mais on va l'améliorer encore.
Oui, vous avez fêté les 10 ans en octobre.
On a fini les 10 ans de l'installation de la Noé.
Rester pendant 10 ans au même endroit, à la Noé Verte. Mais quand on s'est installé à Notre-Dame-des-Landes pour empêcher la construction de l'aéroport, une fois le projet annulé, Pourquoi est-ce qu'on reste ?
Quand tu passes du temps à construire un truc, tu peux... T'as la posture de dire « Ah ouais, moi j'aime bien changer de vie tous les 7 ans, comme j'adore repartir de zéro, je suis une sorte de mentalité entrepreneur », mais t'as aussi le truc de dire « Ah bah ouais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, voilà, j'ai mes petites habitudes, j'ai construit mon truc », t'as plutôt envie de rester parce que tu vas bouger ailleurs. Déjà, faut pouvoir bouger ailleurs. Et bouger ailleurs, ça veut dire aussi tout refaire, ou retourner dans le système... le truc locatif et tout, mais il faut le pouvoir, quoi.
Pour 25 ans encore, le département de Loire-Atlantique laisse les terres de la Nouée Verte en location à la bande de Gouesnay-Alec. Un horizon trouble et instable pour tous les zadistes qui se sont installés à Notre-Dame-des-Landes. Ils ne savent même pas s'ils pourront encore vivre, s'ils le veulent, dans les lieux qu'ils ont construits.
Mais aujourd'hui et demain, d'autres luttes restent à mener, d'autres combats à porter, que ce soit à la ZAD ou ailleurs. Et de nouveaux imaginaires restent à explorer.
Alors c'est l'exergue que j'ai choisi pour « Les riches contre la planète » de Victor Hugo, tiré des Misérables. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. Et la lumière qui les électrise.
Dans cet épisode réalisé par Garande Lintanf, Marine Moine et Ewen Dubé, nous avons entendu au générique Turn the Page de The Streets et Piani Pianino de Tilassine, puis dans l'ordre Zoélie, Ewen, Yuna, Martin, Ariel Kirou, un extrait de Captain America, Monique Pinson-Charlot, Likam, Alain Damasio, Alec et Gwen de la Noé Verte, ainsi que la chanson « Sauvons-nous » du groupe Catastrophe. « Vert de rage », une série documentaire à réécouter en podcast sur la page émission spéciale de canalb.fr.